Je vais profiter de la présence de Pierre Perrault qui est ici pour parler du départ d'un grand militant des communautés queer et de la diversité sexuelle et de genre ici à Montréal. Il s'agit de Michael Hendrix. C'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Je pense que c'est un des premiers couples à se marier, lui et René Leboeuf. Et en fait, Michael Hendrix, qui était États-Unien d'origine, avait décidé de quitter les États-Unis parce qu'il était en profond désaccord avec les politiques de son gouvernement, notamment avec la guerre au Vietnam. Il est arrivé à Montréal et puis il parle très bien français, il a appris la langue et surtout, il s'est rendu compte que, oui, il y a des injustices aux États-Unis, mais il y en a vu ici au Canada. Il est devenu un militant, d'abord pour dénoncer le fait que plusieurs hommes gays étaient assassinés à Montréal et que la police ne faisait pas autant le bon travail qu'on pouvait s'attendre d'eux. Et donc, le comité dira fin de la violence. Michael Hendrix a été de tous les combats pour les communautés. Et pour ceux et celles qui ont vu la pièce de théâtre « Corps fantôme » au Théâtre du Cep, on a même joué son personnage sur scène. Alors, il est décédé samedi matin. Il était d'une maladie, une longue maladie. Et là, ça va expliquer un petit peu pourquoi on devait l'interviewer à la série d'émissions Pierre Affirmation. Et bon, au moment de faire l'entrevue, j'avais appris qu'il était très malade et qu'il ne pouvait pas se présenter. Alors voilà, ceci explique cela. Puis nos condoléances à sa famille, aux siens et aussi à toutes les personnes des communautés queer. Pierre, toi, tu as connu un peu cette époque-là. Tu as peut-être moins connu Michael, par contre?
Ben, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je connais le personnage.
C'est un monument, oui.
Je l'ai rencontré dans des événements, dans des activités, mais c'est toujours quelqu'un qui attirait beaucoup les gens à aller le voir, à aller parler avec lui, parce qu'on se rendait compte que c'est quelqu'un qui avait marqué l'histoire du développement de la communauté LGBTQ à Québec, à Montréal, mais même partout au Québec.
Oui, une grande personne qui nous quitte. Alors, ben quand même, un salut à Michael Hendrix. Ben voilà, c'est le temps de passer à la chronique de Pierre aujourd'hui. On va se rendre à la Malbaie, dans Charlevoix, et dans la capitale nationale, la merveilleuse ville de Québec. Et ben oui, je suis natif de la ville de Québec, je peux bien le dire. Et pour connaître et découvrir deux activités tout à fait insolites qui devraient en intéresser plusieurs.
Oui, mais je vais commencer par une petite correction, parce que tantôt, en présentation, j'ai parlé de Baie-Comeau. Je fais souvent l'erreur de confondre Baie-Comeau et la Malbaie.
On s'en était pas rendu compte.
moi, je m'en suis rendu compte en me préparant pour l'entrevue. Alors voilà, on s'en va à la Malbaie. On se rend d'abord à la maison du bootlegger à la Malbaie, dans la superbe région de Charlevoix, qui n'est pas très loin de la capitale nationale, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un bootlegger, au juste? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Ben, moi, qui ai de la deux culture, oui, mais je vais te laisser l'expliquer.
Oui, ben, le terme bootlegger désigne un contrebandier d'alcool clandestin, particulièrement célèbre à l'époque de la Prohibition aux États-Unis et au Canada, dans les années 1920 à 1933. Le mot vient de l'anglais « bootleg », jambe de botte, en référence aux personnes qui dissimulaient des flasques d'alcool dans leurs hautes bottes pour éviter les contrôles. À une époque où la vente et la consommation d'alcool étaient illégales, les bootleggers approvisionnaient les bars clandestins, ce qu'on appelle les speakeasies, en bravant les forces de l'ordre. Cet univers a donné naissance à un riche folklore immortalisé par des figures historiques et de nombreux hommages culturels, dont celui de la Malbaie. Voyage inusité au cœur de l'époque de la Prohibition, la maison qui nous accueille fut érigée en 1860 avant d'être entièrement démantelée puis reconstruite à son emplacement actuel au début des années 1930. Transformée en un labyrinthe avec des portes cachées pour déjouer l'escouade des mœurs, elle abrite des couloirs secrets, des bars camouflés, une salle de jeu, des chambres privées. Dès l'arrivée, le visiteur est introduit au mystère du premier escalier secret menant au speakeasy dans le grenier, et il devra d'abord descendre pour mieux remonter. C'est très intéressant. On va vous montrer le bar camouflé qui permettait d'approvisionner la maison par le mur extérieur. Pour pas manquer l'authentique signature d'Elvis Presley qui s'y trouve. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qu'Elvis Presley venait faire là? Mais en tout cas, peut-être, je ne sais pas si...
Il prendre un verre, peut-être.
Hein? Peut-être, à l'époque. En fait, c'est un véritable musée à découvrir. Le visiteur resta surpris devant cette demeure colorée, tout comme l'était le personnage qu'il a opéré pendant plus de 40 ans. Mais il y a deux niveaux à cette visite. Les visites guidées ont lieu le samedi et le dimanche après-midi jusqu'au 30 août. Ceux qui veulent juste faire une visite guidée. Mais c'est aussi un restaurant. Le restaurant de type Take-Out, qui est situé à l'étage de l'ancien club Select, est ouvert tous les soirs, toute l'année, sauf du 20 décembre au 15 janvier. Cuite sur charbon de bois à l'érable, juste le menu, là, ça donne le goût d'y aller. Cuite sur charbon de bois à l'érable, aromatisée aux copeaux d'hickorie, les viandes sont saupoudrées de leur fameuse épice bootlegger et servies avec la sauce Backfire. Toutes les soirées du bootlegger comprennent le repas, les tables d'hôtes, une visite guidée de la maison et un spectacle de musique au son endiablé d'un des bands, un orchestre de la maison. Fait à souligner et intéressant pour cette région, l'endroit est accessible en motoneige l'hiver et les groupes de motoneigistes y trouveront une ambiance unique. Donc, pour tous les détails pour la maison du bootlegger, on va visiter le site maisondubootlegger.com.
Bon, je vais m'acheter des bottes hautes là, pour que je puisse mettre mes bouteilles d'alcool. Moi qui ne bois pas, ça va.
Bien sûr.
Ça va. Ben, écoute, on se déplace maintenant à Québec pour une activité nocturne, les promenades fantômes.
Oui, je pense que ça t'intéresse beaucoup, d'après ce que j'ai compris.
Ouais.
À la tombée de la nuit, des fantômes tels que le spectre de Marie-Rivière et le bourreau Jean Ratier errent dans les rues du Vieux-Québec. Il m'est arrivé plusieurs fois au fil des années, parce que je suis originaire de Québec aussi, de rencontrer des petits groupes de gens la nuit, le soir tard, qui se promenaient avec un guide. Puis je me suis toujours demandé à l'époque qu'est-ce que c'était, comment les gens visitaient la nuit. Ben c'est ça.
Ah.
Ils nous plongent au temps de la Nouvelle-France, autrefois lieu de perdition de nombreux criminels, lors d'une visite guidée animée qui sort des sentiers battus. Les crimes et châtiments racontés sont authentiques et donnent la chair de poule. Puis ceux qui sont allés affirment qu'il est difficile d'oublier la description fort colorée du supplice de la roue.
Ah mon Dieu, oui, je sais quoi, oui. Quelle horreur.
La visite permet de voir Québec sous un autre angle et même de découvrir des endroits dont on ignorait l'existence, comme la rue sous le Cap. Plusieurs visites différentes sont proposées, dont Crime en Nouvelle-France. Et ça, je pense, c'est particulièrement intéressé à Crime de la Nouvelle-France.
Oui, je suis devenu amateur des podcasts, là, des balado-diffusions les crimes. C'est tellement fascinant. Et puis, je pense que dès que j'ai vu ça, je pense que je vais aller faire ça quand je serai à Québec cet été.
Bien, l'histoire de la Nouvelle-France regorge d'ignobles crimes, d'arrestations et d'exécutions qui hantent toujours le Vieux-Québec. Le plus célèbre des bourreaux, Jean Ratier, ou sa femme, l'irréductible Marie-Rivière, vous les raconte avec un humour à glacer le sang. Alors, il faut dire que c'est des comédiens qui prennent la place de ces personnages-là et il semble qu'ils sont très, très bons. De la Haute-Ville en passant par la Basse-Ville, Québec renferme une multitude d'anecdotes à faire frémir une fois la nuit tombée. Laissez-vous habiter par l'atmosphère sombre de la vieille capitale et revivez les sordides détails d'une histoire trop longtemps gardée secrète. Il y a aussi la mort en Nouvelle-France. Préparez-vous à découvrir, parce qu'il y a plusieurs, si on va sur le site, on voit qu'il y a plusieurs spectacles différents. Préparez-vous à découvrir le vrai visage de la mort au 17e siècle. Cette visite animée en Nouvelle-France vous plonge dans les rites funéraires. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mm-hmm. Les anciens cimetières, les enterrements approximatifs de l'époque à travers les histoires lugubres de votre guide hautement vivant. Quels étaient les lieux de repos, le repos éternel, faut le dire, au sein du Vieux-Québec? Comment disposait-on du corps des criminels, des pauvres, de l'élite? Quels étaient les rites des colons lors du trépas? Comment la mort était-elle vue à l'époque? Venez percer les secrets mortuaires bien enterrés lors d'une balade funèbre, mais ô combien divertissante. Les promenades ont lieu depuis plus de 20 ans, et ça, peu importe la température extérieure, et ça dure entre 60 minutes et 2h30 selon le circuit qu'on décide de prendre. Elles ont lieu les jeudis, vendredis et samedis, et ça, toute l'année. Donc, pour plus de détails sur ces activités fort intéressantes, consultez le site promenade avec un S, fantôme avec un S.com.
Ah, j'ai souvent entendu dire que Québec, c'est une ville plate, une ville dortoir. Bien là, on vient de ça. Méfiez-vous, quand les lumières sont éteintes, il se passe des choses. Merci beaucoup, Pierre.
Ça me fait plaisir.